La hussarde.
Allez Caro, allez on est à la bourre. Tu boiras ton café après, on a déjà perdu plein de temps avec tous tes amis à la cafette là.
T'exagères un peu.
Ah mais on est direct, t'es là depuis 2 mois, t'as déjà plus d'amis que moi à France Inter.
Bah ouais, mais c'est parce que t'es trop sérieux Thomas, faut que tu te détendes, t'es trop politique.
Bon ça va, arrête de te foutre de moi, on a terminé l'épisode sur Mélenchon, maintenant on enchaîne avec Marine Le Pen, donc on a du taf sur la planche.
Du taf sur la planche, ah ouais c'est marrant, je connaissais pas ça, le taf sur la planche.
Bah si, c'est la goutte d'eau qui fait exploser le baril.
Ok.
Bon,
okay
bah, allez coup... on y va.
Ah mais j'ai appris un truc. Hein,
oui, bon, allons-y.
Ouais.
Bonjour Florian Philippot.
Bonjour.
Florian Philippot, les circonstances, le tableau n'avait jamais été aussi favorable.
Oui, en effet, on peut voir les choses comme ça. On peut estimer que c'était peut-être son tour à ce moment-là. Même si je pense que la victoire, malgré tout, aurait relevé quasiment du miracle. Si vous voulez, moi je vais vous dire aussi très clairement le fond de ma pensée. À la limite, peut-être que... Tant mieux s'il y a eu le ratage du débat de second tour, parce que ça a permis quand même de révéler certaines choses. Et c'est vrai que le combat patriotique français, qui n'est jamais terminé, et qui à mon avis est beaucoup plus proche de sa victoire qu'on ne le pense, il doit passer à une génération d'après. Et peut-être que la grande faille, la grande limite de cette élection présidentielle pour Marine Le Pen, c'était justement que un appareil avait fait son temps, ou avait fait le tour de lui-même, et n'était définitivement pas en capacité, en réalité, de rassembler une majorité de Français.
Pourquoi tu stops ? On peut aller plus loin, hein, jusqu'à l'archivin.
Bah oui, mais j'ai une question. Pourquoi t'as choisi Florian Philippot et pas, je sais pas moi, Louis Alliot, ou Nicolas Bay, ou même Marine Le Pen ? Philippot, il a quitté le Front National, non ?
T'es calé, toi, sur le Front National, dis donc.
Bah, pas particulièrement, mais avec toi et ton émission, je commence à m'intéresser un peu à l'art politique. Tu sais, j'écoute, je réécoute, je prends des notes, je bosse, quoi.
Bon, ok, arrête de déconner, je t'explique. Alors, c'est vrai, j'ai hésité. Et puis, le fait qu'il soit parti, qu'il ait monté son propre parti, les Patriotes, hein, il a quitté le Front National, et qu'il soit en bisbille maintenant avec Marine Le Pen, ça m'a intéressé d'avoir à la fois le point de vue du gars de l'intérieur, de l'insider... Et puis en même temps, du concurrent. C'est une vieille histoire au Front National. Tu te rappelles Bruno Maigret contre Jean-Marie Le Pen. Et puis lui, il a fait toute la campagne, hein, juste avant le fiasco, le débat. Alors il dit qu'il est pour rien dans le débat, c'est pas si clair.
Et ben voilà, fallait juste demander.
Donc Marine Abraché, archive 1.
En politique, direction Brachet, en Haute-Marne, charmante petite localité, sa place centrale et son clocher, on dirait le jeu des 1000 euros, mais c'est du sérieux. C'est là que Marine Le Pen a fait sa rentrée politique, comme elle l'avait fait les années précédentes, dans une France rurale qui symbolise la France des oubliés.
La France de nos terroirs, cette France oubliée et pourtant généreuse et travailleuse. Brachet, c'est un petit échantillon du peuple, mais à travers qui je peux m'adresser au peuple tout entier.
Nouveauté en revanche chez Marine Le Pen, le tableau dramatique est entrecoupé désormais d'envolées lyriques sur la nation, le peuple, la souveraineté, un autre ton plus léger, plus optimiste, comme si Marine Le Pen avait compris que pour gagner, il va aussi falloir susciter l'espoir.
Il faut croire en la politique, croire en l'État-nation. Oui, un peuple peut décider d'emprunter une autre voie. Oui, la liberté peut encore nous guider. J'y suis prête, avec le peuple et pour le peuple.
C'est fou, ouais, je me souviens, c'était devenu le premier parti de France.
Ouais, et en intention de vote, ils étaient sûrs d'être au second tour, ils pouvaient même être en tête, hein. Donc Brachet, c'était vachement important. C'est là, on met l'archive 2.
D'accord.
J'ai pris des distances pendant quelques mois, avec le commentaire futile du quotidien, pour me concentrer sur les sujets essentiels et rencontrer les Français. En cette rentrée, c'est à vous que j'ai voulu réserver mes premières paroles publiques. En dépit des événements récents qui sont terribles, c'est avec conviction que je vous le dis, notre génération de Français porte une responsabilité éminente devant l'histoire. C'est là, dans les circonstances tragiques, que la politique doit retrouver sa véritable noblesse. Les politiques sont appelés à s'extraire des intrigues, des postures et des mensonges pour conduire le pays sur d'autres voies que les routes sans horizon, pour reprendre la formule du général de Gaulle.
Et là, c'est carrément gaulien, hein. On met le passage.
Si vous êtes ici aussi nombreux aujourd'hui, c'est que vous avez compris. Et l'actualité récente en a apporté une démonstration éclatante que contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple.
Est-ce que à ce moment-là, à ce moment de la campagne, elle a conscience, vous avez conscience que c'est une chance historique et qu'il faut monter sur le piédestal?
Moment-là, en septembre 2016, moi je suis rempli d'espérance, je suis rempli d'optimisme, comme beaucoup de, je pense comme tous les militants. Nous sommes très très haut dans les enquêtes d'opinion, pour ce ne sont que des enquêtes d'opinion, mais c'est un indicateur intéressant. Et je me dis que si on continue sur cette voie-là, on va avoir de très très belles surprises pour l'élection présidentielle.
Mais vous avez préparé ce discours avec elle?
Oui, tout à fait.
Dans cette optique-là?
Autant j'ai préparé beaucoup celui de septembre 2016, autant je n'ai pas du tout préparé celui de septembre 2017.
Oui, j'imagine.
Et la tonalité n'était pas du tout la même.
Mais celui-là?
Oui, bien sûr. Moi, pendant entre 2009 et 2016, j'ai travaillé énormément bien avec sûr. Marine Le Pen, mais toujours dans un sens. Plus de gaullisme, plus de social, plus d'ouverture. Ce sont des discours, mais ça s'est traduit aussi par la création d'associations dans la société civile pour ouvrir à de nouvelles thématiques comme l'écologie, la santé, l'école, etc. Bon, c'est vrai que moi, c'est à cela que je croyais. C'est à cette dynamique, à cette force-là. Et c'est vrai qu'on la sent bien en tout début de campagne. Je crois que ça va dérailler après.
Alors attends, si j'ai bien compris, c'est Philippot qui a écrit le discours. Et aujourd'hui, il assume un peu, mais pas trop, mais pas tout. C'est vraiment des opportunistes.
Ouais, malheureusement, il n'y a pas qu'au Front National qu'il y a des opportunistes. Et parlant d'opportunistes, on va maintenant passer l'archive suivante. Marine Le Pen va à New York, elle veut surfer sur la vague Trump, elle veut être reçue par Trump, on met l'archive et on laisse l'interview de Philippot. Bon.
D'accord.
Marine Le Pen a retrouvé à New York un homme qui se présente comme un ami de longue date, Georges Lombardi, un businessman américano-italien qui appartient à la Ligue du Nord, le parti populiste d'Italie, et qui avait organisé pour la candidate frontiste une réception mercredi soir pour lever des fonds.
C'était une rencontre privée avec des amis à nous, des gens qui ont la possibilité de l'aider, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des industriels. Et si elle est ici, c'est parce qu'il se trouve que je vis ici.
Car Georges Lombardi habite la Trump Tower, il est un des voisins et proche de Donald Trump. D'après le site Politico, il serait devenu le fixeur européen du futur président, celui par qui passent les hommes politiques de droite et d'extrême droite pour espérer obtenir un tête-à-tête avec lui, même si cela ne réussit pas souvent. D'ailleurs, le service de presse de Donald Trump indique que Marine Le Pen n'a rencontré aucun membre de son équipe. Georges Lombardi affirme qu'ils n'en ont pas fait la demande, mais il n'hésite pas à comparer la candidate du FN à son voisin.
Très similaire à Trump, la Trump française, le message est très semblable. C'est un message populiste qui résonne auprès de la classe ouvrière.
D'après lui, Marine Le Pen poursuit sa visite aux États-Unis en se rendant aujourd'hui à Washington, où elle devrait rencontrer des élus américains.
Voilà, vous avez compris. On est en janvier. En janvier 2017, le président Trump est élu et pas encore en fonction. Il reçoit du monde à la Trump Tower et Marine Le Pen tente un coup. Là, elle tente un coup carrément.
Oui, elle a tenté sa chance, mais probablement. Alors, moi, j'étais même pas du tout en lien avec les réseaux qui lui ont permis d'aller là-bas, donc je peux pas tout vous raconter dans le détail, mais ça n'a pas fonctionné effectivement.
Et ça aurait été un bon coup.
Oui, je pense que ça aurait été un bon coup, comme on dit effectivement.
Oui. Ça aurait été un bon coup sur le moment, mais en même temps, en mai, quand survient l'élection, déjà l'étoile de Donald Trump, mais en France, pâlit beaucoup, donc ça aurait pu aussi finalement lui retomber sur.
Oui, mais je pense honnêtement que pour une candidate comme Marine Le Pen, qui avait un déficit d'institutionnalisation en quelque sorte, voyez, rencontrer le président élu des États-Unis, ça ne peut être quand même que positif.
Alors là, on aborde le thème préféré du Front National, son éternel combat contre l'islamisme et contre les Arabes. Ils lancent donc l'idée, eux aussi, de la laïcité comme meilleur rempart contre le communautarisme.
Alors du coup, on va à l'archive 6, c'est ça?
Oui, et on écoute la réponse de Philippot.
Voilà la France de messieurs Macron et Fillon. Voilà le résultat de deux quinquennats de laxisme où rien n'a été fait pour lutter contre le communautarisme. Pire, le communautarisme a été entretenu, presque encouragé par des politiques nationales déclinées au niveau local, totalement ubuesques. Je le redis aujourd'hui avec beaucoup de fermeté, la rue est un espace public où les religions n'ont pas à s'exprimer. Il convient maintenant d'adresser une réponse extrêmement ferme et d'appliquer quelques principes de base que je rappelle dans mes engagements présidentiels. La collectivité n'a en aucun cas financé la construction de lieux de culte. C'est de la responsabilité des croyants, et ce, quelle que soit bien entendu la religion concernée. Que mes compatriotes de confession musulmane et le reste de la nation, croyants et non-croyants, sachent que je mènerai à la tête de l'État une politique rigoureuse sur ce sujet, profondément ancrée dans le respect des règles de la laïcité, pour que nous puissions tous ensemble, unis en tant que Français, à la fois protéger la liberté religieuse et la non-interférence des religions dans l'espace public.
Alors Florian Philippot, il faut que vous nous expliquiez, parce que la laïcité, c'est quelque chose de relativement neuf au Front National. Hein. Jean-Marie Le Pen, lui, il était attaché plutôt à... C'était la France, fille aînée de l'Église, il n'aimait pas cette notion de la laïcité. On peut dire que c'est vous qui l'avez introduite ?
Oui, alors le texte qu'on vient d'entendre, il est de moi.
Vous l'avez reconnu, alors.
Je l'ai reconnu. Alors, je l'ai introduit. Enfin, oui, je pense que Marine Le Pen en avait parlé déjà un petit peu avant, mais c'est vrai que moi, je suis profondément attaché à la laïcité. Il aurait été hors de question que je m'engage dans un mouvement politique qui ne défende pas clairement la laïcité.
Encore mais une c'est fois. Une révolution. Ah oui, je dis ça pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la vie politique. Dans les années 90, Jean-Marie Le Pen ne parlait jamais de laïcité.
Oui, oui, non, mais il y a tout un courant.
Il n'aimait pas ça.
Il y a un courant vraiment d'extrême droite, pour le coup. Terme souvent utilisé abusivement, mais là, on peut l'utiliser, qui est totalement en guerre contre la laïcité, toujours aujourd'hui, évidemment. Pour plein de raisons très anciennes, historiques. Bon. Alors que moi, je pense que c'est indispensable. On n'a pas d'autre manière de faire et que c'est une force de la France.
Bon, on enchaîne toujours dans la chronologie et puis après l'alliance avec Dupont-Aignan.
Oui, on en a parlé dans l'épisode 3.
C'est ça. Et puis on continue. On arrive à ce fameux face-à-face, enfin presque, hein, entre Le Pen et Macron, tous les deux à Whirlpool, à l'usine, à Amiens.
On met l'archive 7 alors ?
Ouais, avec le lancement puis la réponse de Florian Philippot.
D'accord.
Nous sommes entre les deux tours. Marine Le Pen tente encore un coup. Les campagnes présidentielles, c'est une série de coups. Elle se rend sur le parking de l'usine Whirlpool, en grève, à Amiens. Les ouvriers occupent l'usine en proie à une délocalisation qu'ils refusent, bien sûr. Cyril Graziani y était pour France Inter.
Tout avait si mal commencé. Des huées, des marines présidentes. Marine Le Pen lui a tendu un piège. Emmanuel Macron est obligé de venir à la rencontre des salariés.
Vous êtes venu parce que Marine est venue.
Non, je suis venu parce que...
Personnellement.
Mais je peux vous le témoigner.
Pourquoi vous n'êtes pas venu avant ?
Mais parce que...
Les élections.
Le candidat d'En Marche est acculé, incapable de discuter avec les ouvriers dans cette marée de micros et caméras.
Je peux prendre un micro ou je crie, mais c'est au choix.
Alors ?
Décision est prise de passer derrière les grilles pour une discussion franche en tête à tête avec les Whirlpool.
Et donc, moi j'ai pris mon risque avec vous. Et je vous le dis très clairement. Le risque, on va le prendre ensemble. Parce que ce pays, il est dans un état de fatigue extrême.
Le dialogue est tendu.
Moi, peu m'importe ce qui se passe dans 15 jours. Dans 15 jours, vous le dites, vous avez déjà gagné.
Mais progressivement, le candidat d'En Marche retourne la situation à son avantage.
Qu'est-ce qu'on va réussir à faire dans les années qui viennent ?
Les salariés ne sont pas convaincus.
Du tout. Après, on lui a exprimé.
Que ce soit lui ou Marine Le Pen, il n'y en a aucun des deux qui convainc. De toute façon, quoi qu'il en soit, ils pourront rien pour le sort de l'entreprise. Ça changera rien.
Ni par lui, ni par Le Pen, mais en venant au contact, Macron a vraiment sauvé le coup.
Voilà, vous avez trouvé finalement avec Emmanuel Macron, Florian Philippot, vous avez trouvé plus gonflé, plus audacieux que Marine Le Pen.
Oui, il a plutôt, on va dire, sauvé le coup. En tout cas, certains médias l'ont aidé à sauver le coup, parce que je vous rappelle qu'il est retourné sur le site de Whirlpool avec ses propres caméras, en mettant à la porte les journalistes, et que les journalistes ont plutôt accepté sans rien dire, ce qui m'avait, moi, un peu étonné à l'époque. Je me suis dit, si Marine Le Pen avait fait la même chose, je pense que ça aurait entraîné une indignation générale. Mais il a plutôt sauvé la mise. Mais Whirlpool, la venue de Marine Le Pen, surprise, ça s'est fait très simplement. Nous étions, elle présidait une réunion d'équipe de campagne. Le jeune là-bas élu conseiller régional, Éric Richermoz, qui était à l'époque, et qui est maintenant chez nous, qui était à l'époque en charge de la Somme, du département de la Somme pour le Front National, était avec ses équipes depuis des semaines et des semaines sur le piquet de grève, sans caméra, sans rien. Il m'appelle, il me dit « Si Marine veut venir, c'est maintenant ».
Et donc là, on arrive au débat. Alors comment on fait, Thomas ? Tu l'abordes dans ton script ou pas ? Parce qu'après, il y a l'émission, tu sais, on a aussi l'émission sur le débat.
Oui, il y a une émission totalement consacrée au débat, mais là, on y revient quand même un petit peu, parce que Philippot, c'est vraiment à partir de ce moment-là du débat qui décide de quitter le FN. Donc c'est intéressant. Puis après, tu colles à partir de ma relance avec Philippot sur l'idée de catastrophe industrielle.
Annonce le défi magique. Je n'ai jamais fait de leçon de morale.
mais je les connais
vous
aussi.
Savez, ça n'est pas eux que vous
j'en
visiez
ai dans ma ville,
disiez,
dans ma région. Je dis juste, je vous dis juste une chose.
Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre
sont sur les réseaux sociaux.
Florian Philippot, ce débat.
Oui, ça a été... on a tellement parlé déjà. Mais ça a été terrible, oui.
Alors, est-ce que c'est... l'ambiguïté idéologique que vous nous avez bien décrite, ou l'ambiguïté même programmatique autour de l'euro, où l'arrivée de Nicolas Dupont-Aignan crée un flou. Ou est-ce que, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un problème de capacité personnelle de Marine Le Pen, de capacité de travail, par exemple ?
Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs conjugués. C'est très compliqué de vous répondre, parce que ça reste un mystère, je pense, à peu près pour tout le monde. Je vous donne un exemple très concret qui montre le mystère. Nous avions négocié avec le CSA et l'équipe Macron qui était OK que pour la première fois, il y ait une carte blanche dans ce débat de second tour. C'est-à-dire que ce sont les candidats qui ont le droit de choisir un sujet. Ça n'existait pas. C'est nous qui l'avions proposé. Macron avait accepté et le CSA aussi.
Et elle l'a consacré à la critique d'Emmanuel Macron.
Voilà, c'est ça mon point intéressant. C'est que quelques heures avant, nous avions convenu que sa carte blanche serait consacrée aux petites retraites. Et moi, j'étais en éloge et je découvre en direct qu'elle répond aux journalistes « Ah ben non, moi, je n'ai pas de carte blanche. » Et s'en suivent 2 minutes d'attaque, de pilonnage d'Emmanuel Macron, ce qu'elle avait déjà fait pendant 2 heures auparavant. Et ça, pour moi, vous voyez, c'est un point qui montre l'incompréhension totale. Comment se fait-il que, alors que nous avions décidé que ce seraient les petites retraites, je rappelle que Macron a consacré sa carte blanche au handicap, eh bien, elle ne le fasse pas finalement. Alors peut-être qu'elle a perdu pied, elle s'est noyée, comme elle l'a dit elle-même, d'ailleurs, je reprends son expression. Enfin, elle ne savait plus très bien où elle en était. Vous savez, comme parfois... on passe un examen, et puis un oral, et puis on perd pied.
Dites-moi, avant d'enchaîner sur le montage du débat, est-ce qu'on peut faire une petite pause, une bonne petite grosse pause ?
D'accord, allez, parce que c'est du boulot le débat.
Devenir votre président.
Le moment est venu.
Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire.
J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années.
Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National.
Après tout, personne n'est obligé.
66% contre 34% pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire.
En mars, c'est nous.